Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bonjour mesdames, messieurs. Nous allons reprendre l'exposé sur cette étrange troisième âme mazdéenne et essayer de voir comment elle s'insère dans ce que j'ai appelé, ce que j'appelle régulièrement, la dialectique des âmes. Je vais résumer rapidement l'image, la représentation que l'on avait de ces divinités Fravashi, je vais dire dans les ouvrages de base de notre philologie, depuis le Wörterbuch de Bartholomée jusqu'à finalement la nouvelle édition du Yashta 13 par Malandra et quelques autres études encore qui l'ont suivi, dont celle de Gerard de Noli en 1886. Probablement que l'étude de 1986 de Gerard de Noli est la dernière qui représente, je dirais, l'état traditionnel des connaissances. Donc la situation est la suivante. Une faculté immatérielle et immortelle, en gros, une âme, qui est l'apanage de chaque individu. Cette âme porte le nom dans le corpus avestique, dans l'hymne qui est consacré à ces divinités, le nom de Fravashi, ce qui est un traitement particulier, probablement par l'élocution liturgique d'un mot plus ancien, mais que l'on trouve dans le dialecte de la Perse à peu près à la même époque, du nom Fravarti. En principe, ce nom devrait être lisible, mais nous ne parvenons pas à l'identifier. Nous ne pouvons pas décider de manière décisive ce qui est les composantes de ce mot, les racines, le suffixe, etc., comme je vous l'expliquais. Donc, un mot de sens inconnu. Bartholomée se refuse à l'expliquer. Et ces âmes personnalisées, divinisées, forment un groupe qui correspond, selon cette vision traditionnelle, à deux choses particulières, au culte des ancêtres, d'autre part, et d'autre part, vu sa forte connotation guerrière, ce que mettent en lumière tous les exposés d'alors, un culte des héros. Voilà, nous avons donc consacré la première de ces leçons, la semaine dernière, à faire la critique de toutes les composantes de cette représentation des choses, qui a été non pas unanimement admise, avec beaucoup de nuances, comme je vous l'ai expliqué, mais qui correspond grosso modo à toutes les conceptions qui s'expriment entre 1904, quand paraît la somme lexicographique de Bartholomée, jusqu'à l'étude de Noli en 1986. On va faire deux acquisitions que nous pouvons aujourd'hui essayer de définir. En 1943, dans son livre sur les problèmes zoroastriens, Zoroastrian Problems, dit-il, of the 9th century books, dans les livres du 9e siècle, donc dans les livres moyens perses, l'anglais Harold Bailey entrevoit une possibilité d'explication du mot qui est à première vue extrêmement séduisante. Il ne va pas faire l'étymologie de Fravashi, mais va faire l'étymologie d'un autre mot qui lui permettra de remonter jusqu'à Fravashi pour l'identifier, comme nous le disons. Bailey relève dans le dialecte moyen perse et moyen parthe des textes manichéens un mot « gourde ». Un mot « gourde » qui signifie « le héros ». L'explication étymologique impeccable, phonétiquement impeccable, qu'il donne de ce mot, ce serait un iranien ancien, verti, nom d'action en ti, de la racine var, c'était notre var 1, dont nous avons posé l'existence la fois dernière, couvrir, protéger. Et à partir de couvrir, donc le sens de protéger. C'est un nom d'action, c'est le fait de protéger. Ce n'est pas la valeur abstraite de protection, c'est un nom d'action, le fait de protéger. Il faut donc lui donner au départ le sens d'un nom d'action et Bailey proposera protectif valour. Donc la valeur protectrice. Protectif valour. Et cette notion d'action est donc personnalisée et devient le nom du héros. À partir de cette étymologie pratiquée sur des mots moyens iraniens, il va remonter au nom de Fravarti. Il va expliquer que dans le nom Fravarti, nous avons exactement le même mot avec le suffixe. Le préfixe, pardon, fra, qui, comme je le disais la fois dernière, n'a pas dans ce cas-ci le sens d'une avancée, d'un mouvement vers l'avant, mais une simple valeur, en quelque sorte, de superlatif de l'action exprimée par le verbe, l'excellence particulière avec laquelle on accomplit l'action. Et le mot fravarti sera traduit par Bailey en anglais, donc, mais c'est transparent en français, pré-éminent héros. On a apporté quelques petites améliorations, n'est-ce pas, à cette explication. Entre autres, on a voulu voir un croisement dans cette racine var avec le latin valeo, hein, avoir de la valeur, etc. Mais ce sont là des détails. Cette explication va s'imposer. Elle va s'imposer très rapidement à l'ensemble de... C'est à elle encore qu'en 1986, Gnoli adhère. Et elle est acceptée par Malandra, avec un argument, il ne sera pas surprenant, vous savez que c'est le genre d'argument que je dénonce régulièrement devant l'auditoire que vous composez, car Malandra dira ceci, c'est une description adéquate de la nature des Fravashi. Quoique les fondements linguistiques ne sont pas assurés. Il n'y a pas pour Malandra de possibilité de démontrer cette explication du mot, mais il décrit parfaitement le caractère des Fravashi. Enfin, c'est ce que je faisais remarquer la fois dernière sur le plan des principes. Il faut toujours se méfier de reconnaître dans le mot que porte quelque chose une description justement de la fonction que ces divinités exercent. Donc, l'explication... La première explication qui sera acceptée unanimement est donnée en 1943. En 1953, paraît dans le journal asiatique un article de Dumézil intitulé « Vishnu et les Maroutes à travers la réforme zoroastrienne ». Ici, on va avoir une réflexion sur l'origine du groupe divin des Fravashi. Le titre de Dumézil est très intéressant. Il n'a l'air de rien comme cela, mais il réunit deux divinités védiques qui n'ont rien en commun, Vishnu et le groupe des Maroutes, sinon que leur nom n'a pas d'équivalent dans le panthéon iranien. Donc, ce titre, ça devient évident lorsqu'on lit l'article, est consacré à tenter de retrouver dans le panthéon mazdéen de l'Avesta l'équivalent du dieu védique Vishnu et du groupe divin des Maroutes. Eh bien, l'hypothèse formulée par Dumézil est que les Fravashi sont la version iranienne des Maroutes indiens. Les Maroutes, c'est une troupe de jeunes gens turbulents qui composent l'escorte du dieu guerrier Indra. Or, pour Dumézil, les points de comparaison sont les suivants. Il y en a cinq. J'en ferai la critique immédiate. Elle a été faite partiellement par Malandra aussi, qui pas plus que Gnoli, n'accepte cette interprétation de Dumézil. Bon, les Maroutes et les Fravashi, nous dit Dumézil, ne sont jamais désignés que par un nom qui les définit comme un collectif. Les Maroutes, les Fravashi. Dans les deux cas, il n'y a aucune trace d'individualisation. Excusez-moi. Mais or, ce n'est pas parfaitement exact. Déjà, la description la plus sommaire d'IH de 13 met cette remarque en cause, puisque la seconde partie du texte consiste en une litanie où sont énumérés les noms personnels privés d'un certain nombre de favashi. Il y a donc bien, d'une certaine manière, mais d'une certaine manière seulement, individualisation. Il est un fait que lorsque c'est le troupe des favashi qui est décrite, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais on peut passer à, une autre perspective, celle de l'individualisation. Deuxième point de comparaison pour du Mézil. Bon, c'est le plus général, nous le savons bien. Les deux troupes ont un caractère fondamentalement guerrier. Mais elles ont quelque chose de spécifique qui leur est commun. Elles ne combattent pas pour elles-mêmes. Elles assistent une divinité plus imposante. Les Marut assistent Indra et les Favashi assistent celui que Dumézil définit comme le nouveau généralissime guerrier de la guerre mazdéen, Mitra. La critique aussi de cette affirmation a été faite par Malandra qui relève que l'association entre les Favashi et le dieu Mitra est faite dans une seule strophe du Yash de 13:47 exactement, et que cette strophe est suspecte pour des raisons qui tiennent en général au mauvais état de la grammaire, à la mauvaise intégration du texte grammaticalement dans le contexte du Yash de 13. On peut supposer une interpolation assez tardive. Donc, il est assez difficile de faire, d'accorder une grande confiance à cette éventuelle assistance de la troupe des Favashi auprès du dieu Mitra. D'autres critiques aussi que l'on peut faire et que fait Malandra, c'est que Mitra n'est pas spécialement un dieu guerrier. Dumézil, dans cet article, c'est peut-être, bon, si je devais faire une critique de cet article plus général du point de vue méthodologique, il a donné quelques coups de pouce vraiment trop visibles au caractère guerrier des Favashi. Lorsque le nom Machia, par exemple, qui désigne tout simplement l'être humain, apparaît, il va traduire par homme, et puis il va encore pousser un peu plus loin, et il va pousser la traduction jusqu'à guerrier, ce qui est une traduction évidemment très exagérée. Troisième point de comparaison. Les parures bigarrées et les armes rutilantes qui caractérisent les maroutes que Dumézil, dans un de ses derniers livres, désignera comme les seigneurs colorés, ne sont pas absentes de la description des Favashi. Elles sont un peu plus discrètes, simplement. Je vous ai cité les passages témoins la dernière fois, le fait que l'on brandit une bannière, que l'on roule en char, que l'on porte un casque et cuirasse de fer, etc. Quatrième point de comparaison. Les Favashi et les Marut assurent pareillement, en plus du service guerrier, le service des eaux. Une des fonctions principales des Marut dans la mythologie du Veda consiste à verser la pluie, à faire pleuvoir. Les Favashi, d'une certaine manière aussi, parce qu'elles sont associées dès le début de leur yacht à la déesse rivière Anahita. La déesse rivière Anahita est une curieuse rivière, je vous le rappelle, parce qu'elle est verticale. Elle monte dans le ciel. C'est curieux de monter pour une rivière, bien sûr, et d'être céleste de surcroît. Et cela correspond à sa fonction qui est d'alimenter le réservoir céleste des eaux. En quelque sorte, à partir de la terre, cette rivière qui est peut-être la Voie lactée, ce qui explique l'image, n'est-ce pas, alimente le réservoir céleste des eaux, d'où plus tard d'autres divinités vont extraire la pluie, la faire tomber sur la terre, la répartir sur la terre. Et ça, c'est le mécanisme de production de la pluie auquel préside une étoile, l'étoile Tishtria. Les Favashi assistent l'étoile Tishtria d'une certaine manière dans cette production de la pluie. Bon, je ne fais pas de critique ici, je vais y revenir. C'est peut-être le point intéressant, ce qu'a perçu Dumézil avec beaucoup de pertinence. Cinquième point de comparaison, c'est naturellement la spécificité des Marouts. Les dieux Marouts sont des divinités atmosphériques extrêmement bruyantes. Ce sont bien sûr des dieux de l'orage, ce qui explique la production de la pluie. Mais surtout, ils ne sont pas comparables aux Favashi dans la mesure où ils n'entretiennent aucun rapport avec la mort et avec la survie de l'âme. Or, c'est essentiel dans la personnalité des Favashi. Alors, Dumézil pense que cela pourrait correspondre à un appauvrissement de leur image. Et j'ajouterai peut-être autre chose. Vous savez qu'il y a une forte différence, dont nous ne parvenons toujours pas à bien situer l'origine, entre les conceptions du point de vue de l'eschatologie en Inde et en Iran. L'Inde s'apprête à brader son eschatologie. Hein, cela confluera dans les doctrines de la métempsychose. Mais le Véda lui-même, quoi que cela ne soit pas absent du tout, et même après, plus tard dans l'épopée, ne parle pas fréquemment du sort post-mortem de l'âme. L'eschatologie tend à passer au second plan, alors qu'au contraire, cette eschatologie est hypertrophiée dans le masdéisme, puisque toutes les pratiques tournent autour d'elle. Alors, on voit peut-être apparaître ici une idée qui est très intéressante chez Dumézil, n'est-ce pas, qui pense que dans ce phénomène, c'est l'Inde qui innove. C'est l'Inde qui innove en laissant l'eschatologie en déshérence et que la vieille idéologie religieuse indo-européenne comportait une eschatologie développée. Ça fera le fond. Pas tout à fait affirmé avec décision, Dumézil a peut-être été un peu timide, de son livre « Mythe et épopée 1 », 15 ans après cet article-ci, bien sûr. Mais ici, peut-être que cela effleure déjà cette idée que peut-être ce sont les Fravachis qui sont conservatrices en entretenant un lien profond avec la mort et la survie de l'âme. Et bien sûr, ça demanderait une petite confirmation comparative dans le cadre des religions européennes, et Dumézil la trouve, mais très brièvement, il est hésitant peut-être, parce que ça demanderait bien sûr une analyse extrêmement poussée, mais il ne la fait pas, et il fait la comparaison entre ces divinités féminines, par leur nom en tout cas, que sont les Fravachis, et dans la mythologie germanique, la figure des Valkyries. Figure des Valkyries, elle-même divinité féminine, guerrière, liée à la mort et à la survie de l'âme. Donc là est le point de. Là serait le point d'origine de cette fonction eschatologique des guerriers atmosphériques. Bien. Alors, je vais dire que de cette. On peut faire une critique qui est aisée, Malandra l'a fait, je l'ai fait. Immédiatement, en vous exposant chaque point qui fait la démonstration de Dumézil, il reste de ceci quelque chose qui mérite de retenir l'attention, et peut-être de décisif. N'est-ce pas ? C'est que les deux groupes divins, les Marut et les Fravachis, en même temps qu'ils appartiennent à la deuxième fonction, puisque la coloration guerrière est évidente, mais ils assurent aussi le service des eaux qui, dans le cadre de la représentation des choses que se fait Dumézil, relève de la troisième. Mais même si nous n'avons pas de conviction particulière vis-à-vis de l'hypothèse de la trifonctionnalité dumézilienne, je pense que c'est tout de même une articulation qui peut être originale et qui demande une enquête. Comment se combine dans la personnalité des Fravachis le service guerrier, d'une part, l'aspect protecteur, hein, l'aspect guerrier, et l'aspect production de la pluie. Cela demandera une analyse particulière. Voilà donc les deux innovations qui vont se produire en 84 ans, en 82 ans, excusez-moi, entre 1904 et 1986. Pourtant, quelque chose s'était produit, mais sans grand retentissement, comme d'ailleurs, vous l'avez déjà signalé lors de la sonde, mais nous allons y venir de manière plus précise, en 1927. En 1927, un indianiste, mais très préoccupé aussi par l'Avesta, Hermann Lommel, publie une traduction du corpus des Yashts de l'Avesta. Le corpus des Yashts de l'Avesta. Traduction complète, donc, de tous ces hymnes aux divinités autres qu'Ahura Mazda. Et il va donner au Yasht 13 une longue introduction où il va exposer son opinion sur le problème des Fravachis. Il va bouleverser complètement l'opinion traditionnelle, en réalité. Pour Lommel, la traduction par Schutzgeist, qui était celle de Bartholomé, donc par l'esprit protecteur, sera conservé, dit-il. Il traduit effectivement le mot Fravashi par Schutzgeist. Mais ce n'est qu'un autre behelf, une commodité, en quelque sorte. Commodité de traduction, mais ce n'est pas la traduction exacte. Or, là, l'explication que Lommel donne de la figure des Fravashi, et qui ne convaincra personne, personne avant longtemps, hein, je vous le signale, est effectivement... ne suscite pas une grande confiance, car le raisonnement de Lommel est purement spéculatif. Lommel va faire un raisonnement qui est une sorte d'analyse conjecturale et une périphrase de la théologie mazdéenne selon la représentation qu'on pouvait en avoir en 1927, n'est-ce pas ? Mais il va partir de la configuration des trois âmes dont je vous ai exposé. Je vous rappelle quelles sont ces trois âmes. L'Urvan, la Daïna sont rassemblées dans cette strophe du Yasna 26 et la Fravashi. La seule de ces âmes qui ne pose pas de problème, si ce n'est la formation de son nom, l'étymologie de son nom, c'est l'Urvan. Lommel le propose de traduire ce terme, Urvan, cette première âme, si vous voulez, comme geistiges Ich, le moi spirituel. Et effectivement, l'Urvan, c'est un peu ça. Hein, c'est un peu ça. C'est l'âme interne au corps, c'est l'âme qui produit durant la vie le sentiment du moi, et c'est cette âme que la mort expulse du corps. Les autres âmes, bon, le mot Fravashi, nous l'avons exposé, le mot Daïna pose un petit problème d'origine, lui aussi un problème d'identification. Mes auditeurs d'il y a, c'était l'année dernière, non, c'était je pense il y a 2 ans que j'ai consacré un exposé à cela. Le mot Daïna, à l'époque de Lommel, et Lommel accepte toujours cette analyse, n'est-ce pas, est présenté et dédoublé dans le dictionnaire de Bartholomé. Bartholomé pose 2 termes d'Aïna. L'un de ces mots désigne effectivement l'âme, une âme. Mais le deuxième est le mot mazdéen qui servirait à désigner la religion, le sens de religion. 2 d'Aïna. Les deux mots doivent-ils se combiner ? C'est une question, pas une question sur laquelle la science reviendra d'ailleurs. Mais Lommel voit les choses comme ceci. Dans l'Avesta ancien, dans la doctrine de Zarathoustra lui-même, comme Lommel considère lui aussi l'Avesta ancien, c'est une part de l'être spirituel. Mais on ne peut pas très bien la définir, effectivement. Hein. La différence entre le Urvan, le geistiges Ich de Lommel, et la Daïna dans les Gathas est extrêmement mal définissable par le contexte des Gathas. Et un peu plus tard, en 1959, lorsque paraîtra la nouvelle interprétation des Gathas par Humbart, effectivement, Humbart sera tout aussi embarrassé, pas que ses prédécesseurs, et il ira jusqu'à avancer que Ruvan et Daïna dans les Gathas sont des mots interchangeables, quoique l'un soit masculin et l'autre féminin. Donc, Lommel ici admet que le concept n'est pas clair. Mais, dit-il, une chose est très importante et significative, cette Daïna, cette partie de la personnalité humaine, est celle qui fait le choix entre le bon et le mauvais esprit. La Daïna est chez chaque homme l'agent du choix. Et c'est par ce choix que l'homme se range dans la bonne ou dans la mauvaise création. Enfin, dit Lommel autre chose, la Daïna est elle aussi permanente. Elle existe avant, pendant et après la vie de chaque individu. Elle existe avant parce que la différence entre, je parle pour Lommel, hein, parce que la différence entre la nature la bonne et la nature mauvaise existe. Préalablement à la personne humaine. Elle existe pendant la vie, et c'est cette existence concomitante à la vie qui est importante, car la nature, bonne ou mauvaise, devient effective durant la vie par la conduite de chaque individu. Enfin, elle existe après la vie, puisque c'est elle qui conduit au paradis ou en enfer l'âme des individus, l'autre âme, le Rouvan. Alors, cela, c'est la doctrine de Zarathoustra lui-même, selon le Mail, c'est la doctrine de l'Avesta ancien, c'est la doctrine des Gathas. Dans l'Avesta récent, conformément au dictionnaire de Bartholomée, la situation est complètement différente. Les attestations de Daina désignent effectivement la religion mazdéenne, tandis que la force mentale désignée dans les Gathas par Daina, a pour substitut le mot Fravashi. Pour le même, le mot Fravashi est le substitut de Daina dans l'Avesta récent. Car la Fravashi est l'âme préexistante, qui existe avant, pendant et après la vie, et c'est aussi l'âme qui fait le choix. C'est la force mentale qui fait le choix entre, dans les termes de Lemel, le bon et le mauvais Manu, entre la bonne et la mauvaise création, et entre, finalement, le culte d'Ahura Mazda ou le culte des démons. Alors, cette idée, maintenant, devient effectivement séduisante. Fravashi est un mot comme tant de noms de divinités mazdéennes, est un nom d'action. C'est une faculté métonymique de la personne pensante, qu'il soit l'homme, qu'il soit un homme ou les dieux. Et cette faculté métonymique, c'est celle de faire un choix. Donc, Lemel reconnaît dans le mot Fravashi la racine de var, choisir, avec le préfixe fra, et il le traduira par val, Entscheidung, qui traduit littéralement signifie la décision de choix. C'est un peu bizarre, c'est un peu redondant en français, mais c'est l'expression qui s'imposera dans la traduction allemande. Alors, voilà, l'expression de Lemel se caractérise par le fait qu'il démythologise le problème. C'est vraiment la position antinomique de celle de Dumézil, qui a mythologisé la question pour lui donner une solution. Lemel, lui, la démythologise complètement. Il en fait une question de pure philosophie ou théologie, comme vous voudrez, mazdéenne. Et c'est dans le cadre de la réflexion théologique du clergé mazdéen qu'il voit la source de l'émergence de ce groupe de divinités. Quelle critique pourrait-on faire de cette représentation des choses ? En dehors de cette idée extrêmement séduisante que Fravashi est l'allégorie du choix, il y a beaucoup de choses à redire, n'est-ce pas, et que je ne suis pas le premier à voir. L'hypothèse de Lemel n'a pas eu un succès grandiose. Elle est restée complètement isolée et Malandra la mentionne parce que, dit-il, elle est ingénieuse. C'est vrai, ça paraît ingénieux, mais ça ne convainc pas. Tout d'abord, l'idée que la Daina est préexistante. Aucun texte ne mentionne cela à coup sûr. La Daina est une âme, certainement, n'est-ce pas, mais dès 1959, Humbart pensera que peut-être ce mot est interchangeable avec Rouvan. Or, le Rouvan n'est pas préexistant. Le Rouvan naît avec le corps. Donc, il y a là... Ce n'est pas attesté suffisamment. Il n'y a pas de fondement suffisant. Il n'y a pas de base observationnelle suffisante dans le texte. L'idée que le mot Fravashi puisse être l'allégorie du choix. Ben oui, mais quel choix ? Le choix ? Le choix entre quoi et quoi ? Ah, très clairement, Lemel fait le rapprochement entre le choix, entre le bon et le mauvais Manu. Ici, je dois donner quelques explications. L'idée que chaque homme, dans son comportement, doit faire un choix entre une force qui est bonne et une force qui est mauvaise, est, semble-t-il, attesté dans une strophe d'Hégata, donc une strophe de l'Avesta ancien. C'est le fameux Yasna 33. C'est probablement la strophe la plus commentée de tout l'Avesta. Le mot qui désigne cette force, bonne ou mauvaise, entre laquelle il faut choisir le mot mayunyu. C'est un dérivé de la pensée, c'est un dérivé du verbe penser. C'est une forme de pensée, c'est une pensée active, car le suffixe yu est incline vers le sens d'un nom d'agent. C'est donc une force de pensée particulière. On traduit par esprit, hein, les Allemands par Geist, en France par esprit. Il y a un rapport avec la colère aussi, avec une certaine impétuosité. Ce mot dans le Veda est attesté sous la forme de l'élan. Humbard préféra ce mot d'ailleurs dans sa traduction. Il traduit par l'élan, avec l'idée d'une violente émotion qui peut se rapprocher de la colère. Mais y a-t-il véritablement un choix ? On peut discuter. Très souvent présent. C'est une expression que vous lirez souvent dans la littérature secondaire sur le mazdéisme, le choix entre les deux manyus. Mais le mot choisir, ce n'est pas var dans cette strophe. L'action qui exprime le comportement que l'on va adopter envers l'un ou l'autre de ces deux esprits du comportement, ce n'est pas le verbe var, ce n'est pas le verbe choisir, c'est un autre verbe. C'est le verbe chi. Avec le préverbe « vie ». Ça ne veut pas dire « choisir », ça veut dire « faire la différence ». Faire la différence. Il faut faire la différence entre les deux manioux. Alors, est-ce que je coupe un peu les cheveux en quatre en disant « faire la différence, ce n'est pas choisir » ou effectivement, faut-il nous laisser porter par le formulaire, étant donné que ce formulaire, nous ne le comprenons pas parfaitement. Mais tout au moins, y a-t-il deux verbes distincts. Vi, chi, c'est faire la différence. Var, c'est choisir. Ce ne sont pas les mêmes verbes, et dans le contexte de ces deux choses, il n'y a pas. Ce n'est pas le verbe var qui est utilisé ici. Deuxième critique de cette notion de choix, c'est que le choix n'est pas effectué par la daïna. Aucune strophe ne nous dit que la daïna est un agent du choix, que c'est la faculté qui fait le choix dans l'Avesta ancien. Non. Non, jamais. N'est-ce pas ? Dans l'Avesta ancien, c'est une remarque, elle est nouvelle. C'est en préparant ce cours que je suis allé vérifier, parce que quelque chose m'étonnait un peu. Mais lorsqu'il est question de choisir quelque chose, n'est-ce pas ? Eh bien, celui qui fait ce choix, qu'il soit un homme ou un dieu, il est désigné par son nom. Il n'y a pas métonymie, il n'y a pas d'allégorie métonymique qui intervienne dans ces cas-là. C'est la personne dûment nommée comme individu, homme ou Dieu, qui choisit. Ahura Mazda choisit. L'objet du choix aussi, ce qu'il choisit, est dûment nommé par son nom, quand il s'agit de choisir une personne. Donc, il n'y a pas de force mentale qui fasse un choix. C'est la personne, dans son vivante, matérielle et mentale, qui fait le choix, selon les gathas. Ce n'est jamais présenté autrement. Alors, les Fravashis, voyons le choix du point de vue des Fravashis. Est-ce que les Fravashis méritent leur nom ? Pour qu'elles méritent leur nom, selon le concept de la description adéquate dont je parlais tout à l'heure, il faudrait que ces Fravashis fassent un choix. Et récemment, dans son compte-rendu de 2007, de mon premier volume d'études avestiques et mazdéennes, vous savez que je traduis Fravashis par âme élective, c'est-à-dire l'âme qui fait un choix. Jean Roudry m'a reproché cette traduction, c'est ce qui m'a incliné à refaire, alors que je croyais la cause entendue, un petit examen des explications possibles du mot. Or, dit-il, ce n'est pas, c'est pas, c'est, on ne peut pas être sûr de cette explication parce que jamais, nulle part, dans aucun texte, les Fravashis ne font un choix. Si, il y en a un. C'est dans le Bundahish de moyen perse. Mais je serai prudent vis-à-vis de cette histoire. Je vous la raconte. Elle est célèbre. Hein. Au moment où l'esprit mauvais envahit la création du bien, Ahura Mazda s'adresse aux Fravashis pour leur demander ce qu'elles préfèrent, si elles préfèrent rester ce qu'elles sont, c'est-à-dire des hommes immatériels, hein, des hommes immatériels, et donc être inaccessibles à la mort, hein, être protégées en tant que telles de la mort, ou bien vont-elles s'incarner dans des êtres matériels, descendre sur la terre pour affronter les forces du mal, connaître la mort, bien sûr, mais lorsque tout aura bien tourné pour les forces du bien, elles retrouveront leur état premier d'être immatériel, mais aussi leur être matériel, et elles seront à jamais heureuses dans ce double état. Et les Fravachis choisissent cette solution, la solution de l'incarnation pour combattre le mal. Mais le texte ne dit pas choisir, la phraséologie de ce passage du Bundahish, je vous la donne. Ahura Mazda demande aux Fravachis ce qui leur paraît le plus avantageux. Pas grand-chose. Qu'est-ce qui est le plus avantageux? Il expose ce que je vous ai dit, et puis les Fravachis, nous dit le texte, sont d'accord pour descendre sur la terre. Bon, ici aussi, peut-être que je coupe les cheveux en quête. Il y a, dans la réalité des faits, dans la réalité narrative de ce passage, effectivement, un choix. Mais méfions-nous de cela, s'il vous plaît, en mythologie. Hein. Je pense que la mythologie, les récits mythologiques, les schèmes narratifs de ces récits sont indissociables du formulaire. Les mots qui racontent les choses dans les mythes sont extrêmement importants. Or, ici, le mot « choix » n'apparaît pas, n'est-ce pas, dans cette histoire des Fravachis. Bon, c'est un témoignage tardif aussi, mais enfin, pas le Bundahish tout de même est fondé sur des écrits plus anciens, avestiques. Mais je laisserai ce témoignage un peu... Je ne lui accorderai pas une importance centrale parce qu'il y a un problème de terminologie. Ce n'est pas sous l'angle du choix que les choses sont présentées. Alors, bon, la troisième critique que l'on peut faire, c'est que c'est la situation des choses en récent. C'est pas, est-ce que vraiment on peut... Aujourd'hui, nous savons bien que... Après plusieurs études sur le mot d'Aïna qui ont été effectuées depuis lors, on sait bien que le sens de religion pour le mot d'Aïna est sujet à caution. La première méfiance qu'il inspire, n'est-ce pas, c'est son anachronisme. La notion de religion comme un corps de doctrine constitué est quelque chose qui... est quelque chose de relativement récent. Il naît en définitive avec le christianisme. Donc c'est une notion qui appartient à notre ère et non pas à des textes aussi anciens que ceux-ci. Sans doute que les quelques passages les plus significatifs, où le mot d'Aïna apparaît dans l'Avesta récent, mettent bien aussi en scène une part immatérielle de l'individu, donc une âme. Le mot d'Aïna n'a pas cessé de fonctionner comme désignation de l'âme dans l'Avesta récent, et nous n'avons aucune raison de substituer Fravachi à d'Aïna dans ce contexte-là. Reste aussi cette idée, je ne sais pas si j'ai accentué la dernière fois, que le mot Fravachi n'est pas attesté dans les gathas. Si c'est une émanation de la théologie de l'Avesta ancien, de la théologie zoroastrienne originale, c'est quand même assez curieux, et ça, c'est un argument que Lommel peut naturellement facilement éviter, parce qu'il lui suffit de dire, mon Dieu, que sont les textes gathiques que nous possédons, sinon un très mince reliquat de toute une époque, de toute une doctrine, et c'est peut-être un effet du hasard si le mot Fravachi n'apparaît pas parmi eux. C'est un argument, l'argument silencio, évidemment, est facile à réfuter. Voilà donc l'hypothèse de Lommel en 1927, c'est pas qu'il ne sera guère cité que comme une curiosité, que comme un exemple, c'est fascinant, il est vrai, un exemple assez fascinant de l'ingéniosité. Pourtant, l'élève de Lommel, l'élève le plus fidèle de Lommel sans doute, Bernfried Schlerath, va donner à l'hypothèse de son maître, en 1980, une apparence tout à fait nouvelle. Il publie cet article dans « Les mélanges offerts à Paul Thieme » en 1980, Et ce texte est plus commodément peut-être accessible dans le recueil des Kleine Schriften de Bernfried Schlereth. L'article de Schlereth est un peu rusé. C'est un très bel article, extrêmement, extrêmement séduisant. Je conseille à ceux qui s'intéressent, je vais dire, à la démarche de l'esprit scientifique dans un domaine comme celui-ci, de lire l'article de Schlereth, hein, parce qu'il est exemplaire d'une démarche progressive pour tenter de résoudre un problème. L'article de Schlereth commence par quelques remarques théoriques. Il fait quelques considérations générales, n'est-ce pas, sur quelques problèmes sémantiques appliqués à des textes comme le Veda ou l'Avesta, qui sont des textes évidemment d'une certaine dimension, mais qui sont tout de même relativement lacunaires. Et nous n'arrivons pas toujours à établir un sens facile en raison de cela, entre les diverses significations qu'un mot peut présenter dans tel passage, puis dans tel autre. Et il nous dit, je vais appliquer donc une réflexion pour sortir de cette difficulté à un problème particulier en védique. Donc il partira du védique sans mettre en jeu immédiatement l'avestique, et encore moins les fravachis. Alors, ce qu'il veut tenter de faire au départ, son programme, hein, c'est de réduire l'écart entre la racine de var, choisir, évidemment, toujours choisir, et un de ses dérivés nominaux, mais déjà, on sent se pointer le mot fravachi, vous allez voir, c'est le mot qui n'est attesté que dans les brahmanas, pour ce que je n'accentue pas, le mot pravara. Le mot pravara, oui, c'est un dérivé de la racine var, et nous trouvons le préfixe pra. Or, le pravara signifie dans les brahmanas di anun raihe, la lignée des ancêtres, choisir la lignée des ancêtres. Hein, nous avons déjà ainsi retrouvé d'une certaine façon tout un pan de la problématique des fravachis, sans qu'il soit nécessaire de le dire. Le mot var, nous dit Schlereth, s'applique dans le Rig Veda, hein, dans le Rig Veda toujours, à deux situations particulières. L'une s'applique en contexte guerrier, hein, l'autre en contexte sacerdotal. En contexte guerrier d'abord. Le verbe var, vernimahe, nous choisissons, ou verne, je choisis, quelqu'un, accusatif, quelqu'un, pour l'amitié, ou comme ami. Avec quelques nuances, pas, c'est soit le mot saki, l'ami, mais avec un sens très précis, hein. C'est une amitié, mais c'est une amitié raisonnée. C'est une situation d'alliance qui implique des obligations bilatérales. Se faire un allié, en quelque sorte, un saki. Ou choisir quelqu'un pour l'amitié, pour ce type d'alliance particulier. C'est donc faire le choix d'une alliance. Et un autre mot, peut-être que saki, qui s'applique dans ce cadre-là, est le mot yujia, hein, ce verbe qui implique que l'on est lié à quelque chose. Or, voici, donc, on a un acte qui est l'acte d'un choix. Mais, puisqu'on choisit quelqu'un pour l'amitié, pour une alliance, pour une forme de pratique sociale, cela signifie aussi s'intégrer à un groupe. S'intégrer à un groupe, quelque chose comme la lignée des ancêtres. Oui, on choisit aussi le roi dans ce cadre du pouvoir royal. Ce n'est pas spécialement guerrier, mais vous savez qu'il est traditionnel de lier le pouvoir royal à la fonction guerrière. On choisit le Rajan, le roi. Bon, choisir le roi, bon, ce n'est pas une élection, c'est une forme d'élection. Et Schlereth croit pouvoir se représenter cette élection comme faire une déclaration officielle d'allégeance, hein, ou bien simplement une acclamation. Hein, une acclamation. Le roi est désigné par l'acclamation d'un certain nombre de personnages. C'est évidemment parfois un peu... On pense à quelque chose dans ce cadre-ci, n'est-ce pas, au lien de vassalité. À reconnaître le personnage comme le premier dans un ensemble, par une acclamation ou par une déclaration d'allégeance. Celui qui a été désigné ainsi, comme roi ou bien comme ami, est appelé Vörta. Participe, je dirais plutôt adjectif, car la formation est nominale, adjectif passé passif. Et ce mot veut donc, signifie donc élu, membre de l'élite et en définitive héros. Et nous avons retrouvé le gourde de Bélé. Voilà le gourde de Bélé. Schlerat va à cet endroit-ci proposer d'expliquer gourde, héros, non pas par verti, non pas par un nom d'action, mais par l'adjectif passé passif, verta. Voilà. Vous voyez, dans le cheminement conceptuel de Schlerat, voici le point de raccord. Hein, point de raccord entre l'Inde et l'Iran. Alors, nous allons passer au choix dans le cadre sacerdotal. Le choix dans le cadre sacerdotal s'applique surtout à la désignation d'un prêtre parmi le collège sacerdotal comme le prêtre principal du sacrifice, c'est-à-dire comme le hotar. Le hotar, en avestique, c'est zautar, c'est le patron de la cérémonie, c'est le responsable principal du sacrifice. Ça ne signifie pas le prêtre, hein, ne traduisez jamais ça par prêtre, c'est une fonction sacrificielle, ce n'est pas une fonction sociale. Bien sûr, le hotar est nécessairement un prêtre, mais le mot traduit la fonction qu'il va exercer durant une cérémonie particulière. Alors, on choisit quelqu'un comme hotar. Et celui, c'est là aussi, parallèlement à ce qui se passe entre le var et le pravara, le choix et la lignée des ancêtres, eh bien, celui qui est désigné comme hotar s'inscrit dans une archéia. C'est un dérivé secondaire du nom rishi, hein, le nom rishi que l'on connaît bien qui désigne dans le Rig Veda, en tout cas, les premiers prêtres, donc, ou les prêtres principaux du sacrifice. Eh bien, le hotar va s'inscrire dans la ligne indéfinie du temps parmi les rishis qui ont rendu le sacrifice aux divinités. Donc, pravaramvar signifie donc prendre rang dans une lignée, qui est soit une lignée d'ancêtres, dans le cas du pravara simplement, soit une lignée sacrificielle, dans le cas de l'archéa. Alors, maintenant, Schlerat est libre, il a déblayé le terrain, il va passer l'Indus, hein, il va s'interroger sur l'Iran. Et il reprend l'idée de Lommel. Il a dit choisir pravar en iranien, en avestique, c'est choisir son camp. C'est choisir entre le bon et le mauvais, il ne dit pas esprit. Je suis perplexe, hein, je vous avoue, j'aurais autant aimé qu'il l'eût précisé. Car c'est choisir entre le bon, la bonne et la mauvaise pensée. Schlerat, denken, il ne dira pas Geist, il dira denken. Je ne sais pas quel mot il a. En principe, on ne traduit pas Mainyu par denken, c'est Manar, la pensée, hein, que l'on traduit comme cela. Donc, je ne sais pas très bien quelle représentation il se fait des choses, mais ici, on ne peut pas le lui reprocher comme à Lommel et mettre en cause un type de choix plutôt que les autres. Peut-être a-t-il vraiment voulu dire qu'il y avait un choix entre deux pensées et que ce choix-là, entre deux pensées, avait pour conséquence que celui qui choisissait bien élisait Ahura Mazda et prenait rang dans la succession. Il n'y a plus de terminologie ici, il n'y a plus de Pravara ni d'Archéa, mais il prenait rang dans la succession de ceux qui sont Achavan. Donc, Achavan, indien Urtavan. Le Urtavan, c'est celui qui est partisan du Urta, de l'ordre cosmique, du bon ordre cosmique, comme l'Achavan, et celui qui est partisan de Acha. C'est le même mot avec une déformation phonétique qu'il faut probablement aussi attribuer à l'élocution liturgique tardive. Mais c'est le même mot. Bartholomé l'a vu dès 1881, nous n'avons réellement aucune raison d'en douter, c'est un fait certain. Or, ce mot Achavan, les Fravachis, qui n'ont pas encore été mentionnées par Schlieratt, sont invariablement et nécessairement affublés du génitif pluriel du mot achavan. Ce sont toujours, toujours les fravachis, pas tout court, les fravachis des achavan. Les fravachis des achavan. On se rapproche doucement de la sphère des fravachis, par conséquent. Or, nous dit-il, cette conception est purement mazdéienne. Et nous devons nous représenter, dit-il, il parle lui aussi de caractéristiques générales, donc, nous devons nous représenter le mazdéisme comme une bekentnis religion. Bekentnis religion. Comment dire ? Allez, je vais un peu pousser pour faire une traduction française plus parlante, mais c'est une religion du credo, en quelque sorte, n'est-ce pas ? Une religion de la profession de foi. Ici, Schlieratt ne savait pas, mais un an auparavant, le fait dont il va exciper, et cette théorie de la Bekenntnis religion avait été exprimée par Karl Hoffmann dans un colloque à Budapest. Mais c'était l'adhésion, bien sûr, très bref, parce que ce n'était pas cet article de Hoffmann n'était pas un article qui avait pour but essentiel d'éclaircir le problème des fravachis. Mais il fait remarquer cela rapidement en passant. Or, cette Bekenntnis religion, elle correspond à un procès bien précis dont nous avons parlé longuement il y a 2 ans, n'est-ce pas ? On fait sa profession de foi, on fait son credo dans le mazdéisme, tout au moins dans la représentation traditionnelle que l'on a des textes, en faisant une déclaration qui signifie « je choisis » et « je choisis d'être mazdéen », si je donne au mot un sens faible, un sens qui a subi la catacrèse, comme l'on dit en rhétorique, où le sens est usé, ou bien « je choisis ». Alors là, je rends aux mots leur sens fort. Je choisis de rendre le sacrifice à Ahura Mazda, c'est-à-dire à Ahura Mazda et pas à un autre. Pas un autre et surtout pas au démon. Or, cette déclaration abrupte, brève, n'est-ce pas, figure dans le Yasna 12, c'est l'ouverture. Donc, très vite après les litanies initiales dans le Yasna et la préparation du Hauma, de la lecteur sacrée, n'est-ce pas, la déclaration. Et fravarahane, elle est au subjonctif aoriste. C'est une vieille forme, donc une vieille forme de la conjugaison qui est préservée ici. Littéralement, ça nous paraît aussi un peu bizarre. Je veux choisir. Si vous choisissez, c'est que vous voulez. Évidemment, ça vous paraît un peu redondant. Mais c'est assez curieux. Dans toute cette litanie, ce sont les verbes qui comportent une intention explicite qui se met au subjonctif d'intention. Donc, il y a une redondance générale qu'il nous faut bien accepter. Donc, je choisis d'être Mazda Yasno. Premier terme de composé, le nom de Mazda. Second terme de composé, le sacrifice. Le sacrifice de Mazda. Je suis celui dont le sacrifice est pour Mazda. En donnant un sens lourd au mot. Et cela est compris par Schlieratt comme je choisis Mazda comme grand dieu, je choisis Mazda comme cible sacrificielle et en même temps, je m'intègre à toute la série de ceux qui font cela, de ceux qui depuis un certain temps déjà et de ceux qui demain choisiront de rendre le sacrifice à Mazda. Donc je m'intègre moi aussi à une filière. Et quelqu'un qui a fait ce procès d'allégeance, porte un nom où on retrouve Verta, il est Fravarta. Fravarta. C'est-à-dire qu'il est dans l'état de celui qui a fait le choix. Alors nous voici ici devant ce café. Que s'est-il passé ? Qu'y a-t-il de nouveau ici ? Eh bien, Schlieratt a reconnu ce que Lemel n'avait pas vu. C'est qu'il y avait un lien entre la déclaration fravarahane, je choisis, et la force fravachi. On peut faire le lien entre le verbe choisir et une force mentale qui serait l'allégorie de l'action du choix, de la Wahlentscheidung. Je choisis d'être mazdéen, et puisque la force qui en moi fait que je choisis que je puis choisir d'être mazdéen, ma Wahlentscheidung, en quelque sorte, c'est ma Fradashi. Ça, c'est l'acquisition définitive de Schlereth. Lommel n'avait pas fait le lien entre Varané et Fravashi. Il n'avait pas non plus, c'est autre chose, fait le lien entre le Var choisir indien et le Var choisir iranien. Lommel avait fait de la pure spéculation dans le cadre du mazdéisme. Alors, ceci comporte quelques aspects intéressants par rapport à Lommel, n'est-ce pas ? Schlereth n'a rien dit de ce qui faisait la faiblesse de Lommel. Il n'a pas évoqué une seule fois un rapport possible entre Fravashi et Daïna. Ça a été gommé. Le raisonnement tient très bien sang. N'est-ce pas ? Tient très bien sang. On peut faire ce raisonnement pour expliquer Fravashi et faire entièrement l'économie des difficultés qui affectent le mot Daïna. D'autre part, par rapport à Lommel, Schlereth a remythologisé le problème. Il a remythologisé le problème parce qu'il a vu qu'il y avait là un très ancien procès indo-iranien, peut-être indo-européen, qui était à la fois politique, puisqu'il s'agit d'élire le roi, et aussi rituel, puisqu'il s'agit d'élire pas seulement d'ailleurs le Hotar, mais peut-être aussi la divinité à qui on va offrir le sacrifice, et ainsi de suite. Bien sûr, du côté iranien, ce processus-là est restreint au culte d'Ahura Mazda, mais c'est une restriction purement mazdéenne. Et enfin, dans les trois cas, dans la notion d'élire, il y a subsidiairement la notion de s'introduire dans une succession. Nous avons ainsi certainement cerné, tous les problèmes aussi que nous nous posions pour les Fravashi, n'est-ce pas ? Les Fravashi, c'est une... Leur nom devient lisible, c'est une faculté de choix, c'est une force qui consiste à élire en matière religieuse, mais c'est aussi nécessairement quelque chose qui s'organise en succession. L'image de la horte va se préciser comme une coloration, une peinture qui va donner une apparence concrète à cette représentation des choses. Ah, on peut ici, bien sûr, faire quelques remarques. Je ferai d'abord une petite remarque de restriction. On pourrait être surpris au départ que l'Iran n'ait pas conservé, la notion d'un, tout de même importante dans la vie sociale, de l'élection du roi. On ne peut pas s'en étonner, on ne peut pas le porter cela au passif de Schlereth. Vous savez que l'Avesta, tel que nous l'avons, il faut bien le considérer comme tel, c'est un texte républicain. Il n'y a pas de roi dans l'Avesta, n'est-ce pas ? Ce sont les maîtres des cercles d'appartenance sociale télescopique qui se superposent aux autres. Donc, qu'il n'y ait pas d'élection royale dans l'Avesta, ça ne peut pas nous surprendre. Ce n'est pas une critique que l'on peut faire. Je vous ai parlé de cette très petite chose, mais qui n'est pas nocive dans le raisonnement de Schlereth. C'est ce choix entre le bon et le mauvais denken, comme il traduit penser, la bonne et la mauvaise pensée. Que tant il parle là, ce n'est pas clair. Je pense que si on peut reprocher quelque chose à Schlereth, ce sont deux choses de fond. Mais ça ne vous surprendra pas. La première chose, elle est très technique, c'est que Schlereth n'a pas suffisamment mis l'accent sur le fait que le choix était bilatéral, que le choix était un procès mutuel. Dans le cadre religieux, dans le cadre de l'Avesta, par exemple, il est clair que le même verbe « var », avec ou sans préverbe « fra », s'applique au choix de la divinité cible du sacrifice par les sacrifiants. Ça, c'est choisir Mazda Yasno Fravarané. C'est le choix de la divinité par l'homme. Mais c'est aussi le choix de l'homme par la divinité. C'est aussi l'élection. Le Dieu reconnaît que ce collège sacerdotal est le sien, que c'est celui qui doit fonctionner, que c'est le bon collège sacerdotal, celui qui l'accepte. C'est le même verbe. Il se produit, il s'exprime dans ce cas-là par, on le trouve dans les Gathas très probablement, lorsqu'Ahura Mazda, on sait que c'est lui, c'est Ahura Mazda Il dit « Je choisis votre harmaïti », c'est-à-dire votre piété à vous, pas celle d'autre. C'est votre piété que je choisis. Et un reflet de cela se trouve dans la déclaration Fravaranée, qui se présente comme ça, comme une parfaite, avec une parfaite structure de mutualité entre l'élection du Dieu et l'élection des fidèles par le Dieu. Ça, Schlereth ne l'a pas mis suffisamment en lumière. Alors, il y a la question de fond qui se pose, n'est-ce pas ? Est-ce que le Fravaranée, c'est véritablement ce qu'on croyait alors un credo ? Est-ce un credo ou est-ce autre chose ? Vous savez que l'analyse que nous avons fait cela il y a 2 ans, si vous y assistez à ce moment-là, j'ai essayé de vous montrer que le Fravaranée, à cet endroit de l'Avesta, se trouvait véritablement à la suite directe de l'investiture sacrificielle des prêtres, et qu'il faut donner non pas l'idée d'une Bekenntnis, comme dirait Schlereth, mais que cette désignation des prêtres, pas ce choix des prêtres, le choix du Zahautar parmi eux, et puis le choix de la divinité par le Zahautar, il faut le voir comme un processus rituel. Le sacrifice va commencer, on choisit la divinité qui sera la divinité cible, et la divinité doit donner son assentiment au collège sacerdotal qui a été investi. C'est un acte préliminaire du sacrifice, mais sur cela, il faudra donner quelques détails. Là, nous avons, je vais dire, un petit défaut de mise en perspective. Hein. L'insistance sur la Bekenntnis contre le rituel, mais ça n'est pas surprenant, puisqu'il y a toute une école qui voit dans l'Avesta une religion anti-ritualiste, en dépit de l'évidence. Alors, je m'arrêterai ici provisoirement. L'aventure avec ce pravara et ce verbe var n'est pas finie, car une deuxième amélioration par rapport à Lemel est en gestation, et elle viendra très vite, 2 ans plus tard, en 1982. Alors, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.